Tämän sunnuntain evankeliumin.
Le texte de l'évangile de ce dimanche est de l'évangile de Jean du chapitre 8. Le venons à l'écoute de ses paroles.
Varhain aamulla Jeesus tuli taas temppeliin.
Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ?» Ils disaient cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un en un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » C'est le Saint-Évangile. Parfois dans la vie, il y a des moments vraiment surprenants et des situations surprenantes. Cela ne fait pas si longtemps qu'avec mes collègues, nous avons discuté quel genre de situation surprise nous avons eu dans notre travail. Quand tout d'un coup, il s'est passé quelque chose d'imprévisible. Dans cette discussion, j'ai parlé d'une occasion où j'étais dans l'église de Utajärvi, en train de servir dans le culte et au milieu du sermon, nous avons entendu les sirènes d'incendie. Je n'avais pas du tout préparé à ce genre de situation. Mais heureusement, cette fois-ci, c'était une alerte sans fondement. Après une courte pause, nous avons pu continuer le culte.
Aika yllättävä oli se tilanteen muuttuminen siellä Jerusalemin
temppelissäkin. Un changement de la situation était assez surprenante dans le temple de Jérusalem. On pourrait dire qu'il y avait une réunion matinale. La semaine précédente, on avait fêté la fête des tabernacles. On s'était réunis de loin d'une vaste région, comme ici dans la réunion d'été, on est venu ici de loin et de près. La fête des tabernacles durait presque une semaine, environ une semaine, et la Bible nous raconte que les fêtes organisées Jésus est arrivé à peu près vers le milieu de cette fête et il a commencé à enseigner. Il y avait des gens qui sincèrement voulaient entendre l'enseignement de Jésus, ses discours. Il y en avait qui voulaient écouter la sainte parole de Dieu et le sol de leur cœur a trouvé trop convenable pour cette parole. Il y avait des gens qui voulaient croire et s'appuyer dans la grâce et dans le pardon de Dieu. Certainement, certes, il y en avait aussi parmi les auditeurs qui avaient, dont les pensées étaient tout à fait différentes. Par exemple, il y avait les spécialistes de la loi qui envoyaient des hommes pour captiver Jésus, pour arrêter Jésus. Mais ces hommes devaient retourner et constater que nous n'avons jamais avant entendu un homme annoncer et enseigner. Les paroles de Jésus avaient touché ceux qui avaient venu l'arrêter. À la fin de la fête, le dernier jour de cette fête, Jésus, d'une manière très spéciale, a proclamé et rappelé que tous les auditeurs, en leur intérieur, ont la soif de venir auprès de l'eau vivante. Ils veulent avoir la source de l'amour et la grâce de Dieu dans leur propre cœur. C'est ce que la foi vivante qui apporte, donne la paix, la liberté et la joie qui surpasse la compréhension humaine et que nous pouvons, en tant qu'un grand don de Dieu, posséder. Jésus a invité les auditeurs à la source de cette grâce, cette paix. C'est ainsi qu'on a fait aussi ici dans la grande réunion d'été. Nous avons invité les gens. Tout le monde a été chaleureusement accueilli. Tout le monde est bienvenu ici, sur place et à distance. Vous êtes chaleureusement les bienvenus à l'écoute aussi ce culte de ce dimanche. C'est notre prière que la parole de Dieu nous touche et nous soigne tous. Cette fête a eu la fin et Jésus est allé passer la nuit sur la colline au mont des Oliviers. Mais tôt le matin, il s'est retourné au temple, il a commencé à enseigner. Et l'évangéliste nous raconte qu'il y avait beaucoup d'auditeurs. Comme ici, dans la grande tente aujourd'hui. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent sur le terrain ici et à distance, pour chers amis, chers frères et sœurs qui ont voulu vous arrêter aujourd'hui pour écouter la parole et le garder dans votre cœur. Mais au milieu de ce moment de la réunion, on amène une femme. Les pharisiens et les spécialistes de la loi amènent une femme qui a été surprise en train de commettre un adultère. Et la situation change tout d'un coup. Et on demande à Jésus, qu'est-ce que tu dis dans cette situation. Comme tu sais, tu es le maître que dans la loi de Moïse, il y a un clair enseignement que l'adultère est poursuivi de lapidation, la condamnation à mort. Jésus était posé, comme on peut dire, dos au mur. Dans une pareille situation, Jésus était aussi quand on est venu lui demander si c'est juste, si c'est convenable qu'on paie les impôts à César de Rome, l'empereur romain qui, avec ses armées, avait conquis toute la région où Jésus vivait et agissait. Est-ce que c'était juste de payer pour les envahisseurs et pour César? Ceux qui lui posaient la question savaient bien que si Jésus répondait oui, c'est correct, on peut l'accuser d'une pensée, l'accuser de trahir la patrie. Mais si Jésus refusait de payer l'impôt, on pourrait le dénoncer aux autorités. Qu'est-ce que qu'a dit Jésus? Demande, donnez-moi cet argent, la pièce de monnaie. Et quand il reçoit ce denier, il demande à qui l'effigie sur cette pièce appartient-elle. Et ceux qui l'interrogent doivent dire à haute voix, c'est l'effigie de l'empereur. C'est alors que Jésus prononce les mots que nous connaissons bien. Rendez à César ce qui est à César, qui appartient à l'empereur, mais à Dieu ce qui appartient à Dieu. La situation était un peu similaire à celle-ci. Que faire en cas d'adultère? Est-ce que Jésus dit que, sans aucun doute, la loi de Moïse permet et même exhorte de lapider cette femme? En effet, c'était écrit ainsi dans la loi de Moïse.
Mais à cette époque,
la pratique juridique romaine ne l'autorisait pas la lapidation. Les Juifs n'avaient pas le droit de donner la condamnation de mort à personne, comme nous le rappelons plus tard en ce qui concerne Jésus. Il devait demander cette autorisation au gouverneur. Si Jésus avait donné la permission de lapider cette femme, il aurait donc agi contre la pratique juridique des Romains. On aurait pu porter plainte contre lui aux autorités de l'époque. Et si Jésus avait directement interdit la condamnation selon la loi de Moïse, on aurait pu l'accuser de minimiser la volonté de Dieu qui se trouve notamment dans la loi de Moïse et dans les commandements. Et c'est pourquoi Jésus ne dit d'abord rien. Il ne répond pas immédiatement. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il écrit sur le sol. Qu'est-ce qu'il écrit? La Bible ne le dit pas. Souvent, devant ce texte de la Bible, on a fait référence de prophète Jérémie.
Kaikki, jotka hylkäävät sinut, saavat onnettoman
lopun. Tous ceux qui te rejettent
jotka luopuvat sinusta,
häviävät kuin tomuun kirjoitetut. Une fin malheureuse, ceux qui t'abandonnent disparaîtront comme des noms écrits dans la poussière, car ils ont rejeté le Seigneur, source d'eau vivante, d'eau vive. Ou, comme dans l'ancienne traduction, on constate ceux qui se détournent de moi, ils seront écrits dans la poussière. C'est le seul passage dans la Bible où on dit que Jésus écrit quelque chose. On a certainement beaucoup écrit sur Jésus. On a écrit dans la Bible et à l'extérieur de la Bible. Si, on a écrit beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup de mauvaises choses. De la même manière, on a beaucoup parlé de Jésus et on parle toujours de ses jeux. Aussi, dans cette réunion d'été, nous voulons parler de Jésus, de notre Sauveur et de notre Seigneur. Nous voulons parler de bien. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus en toute connaissance, en mal de Jésus, et qui veulent aussi parler du mal de ceux qui croient en Jésus.
Kun Jeesukselta edelleen tivattiin.
Quand on exige la réponse pour cette question, ce qu'il fallait faire pour cette femme, Jésus se redressa et déclare les mots que nous connaissons très bien. Les paroles qu'on a beaucoup cité dans de nombreuses situations différentes, même dans la vie quotidienne, quand Jésus disait, parce que Jésus a dit, celui d'entre vous qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. Celui d'entre vous qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre.
Olihan Jeesus jo välittömästi noiden
immédiatement
paikalle tulleiden saavuttua ymmärtänyt, mistä on kyse.
Jésus avait compris immédiatement de quoi il s'agissait quand les gens étaient venus la questionner. Quand les spécialistes de la loi et les pharisiens ont traîné cette femme sur place, Jésus a pu constater qu'il n'y avait aucun témoin avec eux. Il n'y avait pas le mari de cette femme n'était pas là non plus. Cette situation avait été mise en scène consciemment pour le fait que maintenant ou jamais on pourrait Jésus puisse être pris au piège par ses propres paroles et plus tard mettre condamné à mort. Et c'est bien ce qui s'est passé, mais un peu plus tard, c'était pas encore le temps, le moment. Selon la loi de Moïse, si la lapidation pourrait se faire, les premiers à jeter la pierre seraient justement les témoins oculaires. Mais par ces paroles, Jésus voulait, en présence Jésus voulait révéler cette réalité à toutes les personnes présentes. C'était la vérité au milieu de laquelle nous vivons, même aujourd'hui. Au début de ce culte, nous avons dû confesser au Père Céleste que nous commettons le péché nous offensons la bonne volonté de Dieu continuellement par les pensées, par les paroles, par les actes et par ce que nous avons omis de faire. Personne, aucun d'entre nous ne peut dire que nous n'avons pas commis le péché. La parole de Dieu nous montre que chacun d'entre nous porte en lui l'héritage de la chute. Chacun de nous a une tendance à faire le mal. On le voit même avec les petits-enfants. Cette tendance au mal cause que nous tombions dans le péché, même si nous ne le voulons pas. C'est pourquoi nous sommes entièrement coupables, entièrement pécheurs de notre part, mais nous sommes les pécheurs rachetés par la foi de notre côté. Nous pouvons posséder la grâce et le pardon. Et ce pardon par la foi aussi vivre dans la communion de la grâce et du pardon au soin du royaume de Dieu.
Noiden Jeesuksen sanojen
par ces paroles de Jésus, à la lumière de ces paroles de Jésus, comme dit l'évangéliste, un après l'autre,
joutui poistumaan paikalta. Vanhimmat ensimmäisinä.
Les accusateurs devaient partir, les plus âgés d'abord. Et à la fin, il n'y avait que cette femme et Jésus. Dans cette traduction de la Bible, on ne dit pas, mais dans beaucoup d'autres, on a plusieurs manuscrits, on mentionne aussi que parce que dans leur conscience, ils savaient qu'ils étaient coupables. C'est très important à noter que dans ce moment-là, ceux qui voulaient accuser Jésus, les spécialistes de la loi, les pharisiens, ils ont reconnu comme une pointe au cœur. Ils ont reconnu leur mauvaise conscience et qu'aucun d'entre eux ne pouvait jeter la première pierre. Aucun d'entre eux ne pouvait commencer cette lapidation. Frères et sœurs, auprès de la parole de Dieu, nous avons appris que le Père Céleste a comme posé dans notre intérieur, dans notre cœur, la conscience. Pour ceux qui vont à sont dans le camp de confirmation, on dit que c'est la voix de Dieu à notre cœur. Il est important d'écouter la voix de la conscience, mais la conscience ne fonctionne pas si constamment on est désobéissant à cette voix de la conscience, si on n'agit pas selon sa conscience. Il arrive rapidement que la voix de Dieu ne se fasse plus entendre. On dit que la conscience s'endurcit et en résulte, comme disait un certain jeune homme quand on l'interrogeait après qu'il avait agi d'une manière violente envers d'un vieillard. Quand on a interrogé à ce jeune homme, pourquoi as-tu agi de cette manière à l'égard d'un prochain tout à fait innocent? Ce jeune homme a répondu, je ne ressens rien. Il n'avait plus aucune sensibilité. Il ne reconnaissait pas qu'il avait mal agi. Si l'homme se retrouve dans un tel état, c'est triste. C'est pourquoi la parole de Dieu, même aujourd'hui, d'une manière sérieuse, nous exhorte à écouter la voix de Dieu et de prendre soin de notre conscience. Comment on soigne sa conscience? C'est par la parole de Dieu. La conscience est soignée là où la parole de Dieu est présente, où la parole de Dieu peut guider la vie et les choix d'un homme. C'est là que la foi et la bonne conscience sont gardées. Quand on vit par la grâce, quand on possède le pardon de tous les péchés, tu purifies de toute injustice. Mais là où l'évangile du royaume de Dieu ne soigne pas le cœur de l'homme, là la conscience cesse de fonctionner. Les accusateurs de Jésus, comme la parole de Dieu nous raconte,
he eivät kuitenkaan olleet tuolle Jumalan tahdolle kuuliaisia.
Il fut ainsi qu'il n'était pas obéissant à la volonté de Dieu. Au contraire, ils ont mis en œuvre leurs propres aspirations égoïstes et il était prêt à tuer Jésus, qui était l'innocent, incoupable. Mais en faisant cela, sans savoir, ils ont accompli la volonté de Dieu. C'était le plan de salut du Père céleste que Jésus devait souffrir et mourir à cause des péchés de tous les hommes. Par la mort sur la croix, expié nos péchés et nos transgressions, et comme établir de nouveau la communion qui s'est rompue ensuite de la chute. Et par sa résurrection victorieuse, il nous ouvre la voie vers la vie dans la maison du Père, où Dieu lui-même, selon sa promesse, effacera toutes les larmes de nos yeux. C'est pourquoi Jésus a voulu dire à cette femme, Jésus voulait donner une condamnation miséricordieuse. Nous pouvons penser que dans cette situation-là, quand les accusateurs étaient partis, Jésus a pu déclarer à cette femme le pardon de tous ses péchés et ainsi délivrer cette femme du fardeau du péché. Il est important de noter ce que Jésus dit à la fin à cette femme. Vas-y. Et désormais, ne pêche plus.
Donc,
Jésus a reconnu que cette femme avait péché contre Dieu et contre son prochain. Jésus ne l'a pas nié. Mais Jésus a accompli la mission pour laquelle il était venu dans le monde des hommes. Déjà là, dans une discussion nocturne avec Nicodème, Jésus rappelait que Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique pour qu'aucun qui croit en lui ne soit pas condamné, mais qu'il ait la vie éternelle. Et après cela, Jésus rappelle encore que Jésus n'a pas envoyé son Fils pour le juger, mais pour le sauver. Celui qui croit en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il ne croyait pas en le Fils unique de Dieu. La condamnation, c'est celui-ci. La lumière est venue dans le monde, mais à cause de ses mauvaises actions, les hommes ont choisi cette attitude. Les hommes ont choisi les ténèbres. La mission de Jésus était de venir sauver les hommes. Il en va de même pour cet homme-là qui avait souffert depuis 38 ans, qui ne pouvait pas bouger, qui était paralysé près de la piscine de Bethesda. Jésus a vu son cœur sans que cet homme ne lui demande. Jésus le voulait guérir parce que Jésus savait ce que ce dont cet homme avait besoin finalement. Bien sûr, cet homme voulait être guéri de sa maladie physique, mais surtout, il avait besoin de paix au plus profond de lui-même. Il avait besoin de pardon des péchés. C'est pourquoi, en guérissant cet homme, Jésus lui a pardonné tous ses péchés. Et Jésus a également dit à cet homme, « Va et ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive rien de pire. » Jésus voulait l'homme de Bethesda voulait guider par la grâce et enseigner par la grâce cet homme de Bethesda ainsi que adultère. Même aujourd'hui, la grâce enseigne, guide, nous conduit comment Dieu, notre Père Céleste, par sa parole, par son esprit, nous encourage de nous repentir du péché, demander le pardon, pardonner et avoir le pardon. Et de cette manière, garder la foi et la bonne conscience devant Dieu et les hommes. Il est merveilleux que même si la repentance est chose très difficile, elle est quand même possible dans le royaume de Dieu, elle est toujours possible. Et pour cela, dans cette réunion d'été aussi, l'évangile, l'invitation a été proclamée de nouveau et de nouveau. Un appel à la repentance et au pardon des péchés. Cette même exhortation, ce même appel est présent même aujourd'hui ici, dans cette grande tente. Si parmi vous il y a quelqu'un qui veut avoir la paix, la liberté, et tu aspires au pardon de tes péchés, je t'encourage de croire la parole de l'évangile du royaume de Dieu et recevoir la bénédiction où on te promet le don de la foi par la mort sur la croix de Jésus et par sa résurrection au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, qui est tourmenté de beaucoup de tentations, je t'encourage de croire et de t'appuyer sur la bénédiction et de la promesse de l'Évangile, la promesse que, au nom et au sang de Jésus, les péchés, les doutes et les tentations sont pardonnés. Sois en toute sécurité. Dieu lui-même, le Père céleste, que la parole de Dieu lui-même garde nos vies, qu'il nous garde dans son royaume tous les jours de notre vie. À lui soit la grâce et la gloire, maintenant et pour toujours. Confessons notre sainte foi chrétienne. Je crois en Dieu,
ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli. Il est descendu aux enfers le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.